Le billet d'humeur, quand l'information suscite la réflexion, avec le pasteur Gabriel Monnet.
Les prisons françaises viennent de vivre un épisode inédit, puisque pendant 12 jours, nombre d'établissements pénitentiaires étaient paralysés par la grève des surveillants, alors même que ceux-ci n'ont normalement pas le droit de grève étant donné la sensibilité de leurs fonctions. S'ils en sont arrivés là, c'est que pour une majorité des 28 000 surveillants de prison, la situation est intenable, stressante et dangereuse. Vendredi 26 janvier, un accord a finalement été trouvé entre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et le syndicat majoritaire des surveillants pénitentiaires, l'UFAPUNSA Justice. Dans un communiqué, le syndicat affirme avoir pris cette décision après avoir consulté la base et affirme « Ce relevé de conclusion traduit une volonté de changer le fonctionnement des prisons devenues de véritables coupe-gorge et zones de non-droit ». L'accord comprend plusieurs mesures, dont une meilleure gestion des détenus radicalisés, une amélioration de la sécurité des surveillants par le renouvellement du matériel et le renforcement des fouilles, le recrutement de 1100 personnes supplémentaires et des indemnités augmentées. Ces mesures suffiront-elles à améliorer la situation catastrophique des prisons françaises? L'avenir le dira, mais le défi est grand, car c'est un mal chronique. Les prisons françaises étouffent. Au 1er janvier, 68 000 personnes étaient détenues dans les établissements pénitentiaires français pour 59 000 places seulement. La surpopulation se concentre dans les maisons d'arrêt qui accueillent les personnes en attente de jugement et celles condamnées à des courtes peines de prison. Dans ces établissements, qui abritent plus de 2/3 de la population carcérale, le taux d'occupation moyen est de 140%, contraignant 2 à 3 personnes, parfois plus, à partager une même cellule et 1500 personnes à dormir chaque nuit sur des matelas posés au sol, notait encore récemment la section française de l'Observatoire international des prisons. Bien sûr, il est plus qu'utile d'améliorer la situation des prisons françaises. Mais au-delà des questions de surpopulation et d'insalubrité qui n'aident évidemment pas, on peut s'interroger plus largement sur la politique pénitentiaire et la philosophie de l'enfermement. On peut considérer que la prison possède une triple tâche. La sanction de ceux qui ne respectent pas la loi, la protection d'éventuelles nouvelles victimes et la réinsertion des condamnés afin qu'ils ne récidivent pas. Or aujourd'hui, avec près de 4 condamnés sur 10 qui récidivent, la prison est d'une certaine manière une école du crime. Il y a quelques années, la conférence de consensus sur la récidive a fait des propositions allant dans le sens d'une limitation de l'incarcération. Était évoquée notamment la création d'une nouvelle peine, la peine de probation, exécutée hors de prison, orientée vers la réinsertion de la personne condamnée et prononcée par les tribunaux sans référence à la prison, à la différence de l'actuel sursis avec mise à l'épreuve. Il était aussi question de rendre certains délits passibles d'une contravention en lieu et place de la prison, ou encore de donner plus de liberté aux magistrats en fonction du parcours et de la personnalité du justiciable et donc d'en finir avec l'automatisme dans l'application des peines. Tout cela va dans le sens d'une individualisation de la sanction. Le sujet est complexe et les choix délicats car ils peuvent avoir des conséquences graves. Il est plus facile de sécuriser les choses et de se protéger en enfermant les criminels que d'oser trouver des solutions plus humaines mais risquées. Pourtant, cela en vaut sans doute la peine, et sans jeu de mots. Dans la Bible, la prison apparaît comme une invention humaine au sein de peuples qui n'étaient pas croyants dans le Dieu unique, puisqu'on trouve la première mention d'un emprisonnement à Sodome pour Lot ou en Égypte pour Joseph. La prison ne faisait pas partie du plan de Dieu, même après l'irruption du péché et donc le développement du mal. Dieu a plutôt instauré des villes-refuges pour offrir un droit d'asile à tous et ainsi éviter certaines vengeances trop violentes. Il est vrai aussi que dans l'Ancien Testament, et à l'initiative de Dieu lui-même parfois, la conséquence de certains actes mauvais impliquait une solution plus radicale, la mort. Il faut bien sûr remettre cela dans son contexte, et il ne s'agit en aucun cas de considérer la peine de mort comme une alternative crédible et souhaitable aujourd'hui. Toujours est-il qu'aux yeux de Dieu, si la prison ne semble pas avoir une place importante, c'est qu'il ne peut se résoudre à un regard qui enferme les humains dans le mal qu'ils ont fait, mais qu'il espère plus que tout une forme de rédemption et de transformation. En tout cas, les prisonniers ont vocation à être traités humainement et visités, ce qui n'empêche pas évidemment d'améliorer les conditions de travail des surveillants, au contraire. Tout cela peut évidemment nous inspirer aujourd'hui. Et sans nier que la prison soit un passage obligé pour certains, elle ne l'est pas pour tous. Et surtout, c'est la manière de vivre son séjour en prison et donc l'impact que la prison peut avoir sur les détenus qu'il faudrait revisiter et chercher à changer. Quand Jésus affirme qu'il ne faut pas répondre au mal par le mal, cela passe aussi par la manière dont nous considérons et traitons les prisonniers.